20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'histoire n'a pas de limite et ne débute assurément pas avec l'émergence de l'écriture. Pour autant, les archéologues ont-ils les moyens de concevoir ces temps durant lesquels l'homme ne nous a laissé que quelques messages fugaces ou taillés dans la pierre ? Assurément, entre science de l'homme et de la société et science naturaliste, fort de 150 ans de recherche, les préhistoriens ont mis en œuvre leurs propres outils, leurs propres méthodologies pour nous narrer cette histoire. Justement ce soir, un de nos meilleurs préhistoriens nous raconte l'une d'elles, l'histoire toute paradoxale d'une France qui n'existait pas encore. Jacques Jobert, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université de Bordeaux, spécialiste des sociétés néandertaliennes et du paléolithique moyen, j'ai souvenir de vos fouilles au cœur du Quercy, le fameux aven de Coudoulous, la grotte sépulcrale de Cussac en Dordogne, et plus récemment, les profondeurs cavernicoles de Bruniquel dans le Tarn et Garonne. Préhistoire de France, votre dernier ouvrage, vient de paraître aux éditions Confluence. Mais Jacques Jobert, les préhistoriens ont-ils réellement les moyens de raconter l'histoire bien avant l'histoire d'une France qui n'existait pas encore?
Bien entendu, sinon je ne serais pas là pour en parler. Préhistoire de France avec un S à préhistoire. Donc ça veut dire que je décline, je propose des histoires au sein de la préhistoire. La préhistoire, c'est la période des sociétés sans écriture, des peuples de chasseurs, cueilleurs, collecteurs. Et donc forcément, il n'y a pas de témoignage écrit. Personne n'a été là pour témoigner de leur vie, de leur évolution, et donc seule l'archéologie permet d'avoir accès à leurs vestiges. Et donc c'est un exercice de haute voltige, effectivement, que d'avoir la prétention de penser qu'on peut reconstituer des histoires de préhistoire.
Mais on retrouve de plus en plus de choses, et des choses de plus en plus fugaces. La science s'accélère.
Oui, il y a une tendance à une sorte d'archéologie virtuelle, d'archéologie non matérielle. Vous avez cité deux sites sur lesquels j'interviens, les grottes de Cussac et de Bruniquel. Nous travaillons dans ces deux sites sans toucher au sol, sans toucher aux parois, ou quasiment pas. Enfin, on fait des sondages microscopiques très très réduits pour essayer de maintenir en l'état ces sites qui sont exceptionnels de par leur patrimoine. Et donc cette archéologie virtuelle nous livre quand même une foule d'informations, parce que maintenant les techniques ont évolué. Et voilà, en 25-30 ans, j'ai vu énormément évoluer ces techniques d'investigation qui permettent d'accéder à des champs documentaires auxquels on ne pensait pas il y a quelques années.
Et les histoires, est-ce qu'elles ont évolué elles aussi ?
Oui, les histoires ont évolué, disons qu'il y en a de plus en plus et qu'elles sont de plus en plus précises. Pour certains segments de la chronologie, je pense au paléolithique le plus récent, le paléolithique final, certainement le mésolithique également, c'est cette longue période de transition entre les chasseurs-collecteurs et les producteurs-pasteurs, la résolution s'est accélérée. Et donc, on a une qualité d'information qui est sans précédent. Je pense évidemment à la résolution de la sédimentation dans des sites d'habitat où on peut aller très très loin dans la reconstitution, qui parfois d'ailleurs frise à l'anecdote. Mais on a des reconstitutions de sociétés qui sont très précises maintenant.
Justement, des histoires, on peut en raconter. Celle-ci a dû être commentée durant certaines soirées auprès du feu. Il y a 13 800 ans, l'aventure de la grotte du Bichon.
La grotte du Bichon, alors c'est déjà un premier extra, puisque la grotte du Bichon, à quelques centaines de mètres près, est en territoire suisse, helvétique. Donc je me suis autorisé cette petite excursion en dehors de l'Hexagone. Alors pourquoi la grotte du Bichon ? Parce qu'on a rajouté un chapitre, même deux d'ailleurs, à cet ouvrage. C'est l'histoire qui illustre, qui est adossée au paléolithique final, donc la fin des temps paléolithiques. Et il se trouve que, voilà, j'ai un petit peu recherché dans la bibliographie, dans les travaux des collègues, et la grotte du Bichon, c'est un site extraordinaire, qui a été fouillé par Philippe Morel, un archéozoologue suisse, hélas disparu très tôt, accidentellement en montagne. Il a étudié des restes d'ours, ou plutôt les restes d'une ours principalement, et les restes de vestiges humains. Et on a pu démontrer avec une étude archéozoologique assez précise que les deux étaient intimement mêlés et qu'ils s'étaient probablement autodétruits l'un l'autre. C'est-à-dire que l'ours avait en partie certainement atteint l'homme, le chasseur, et le chasseur avait lui-même certainement tué cet ours qui était une ours femelle. On a retrouvé des vestiges de pointes de flèches qui étaient dans le corps de l'animal, et cet homme, malheureusement, ce chasseur, a été tué par cet ours dans un combat au corps à corps.
Alors, est-ce qu'on peut même faire une sorte de scénario? L'homme chasse l'ours, il se promène, il voit une grotte, il se dit qu'il y a peut-être un ours à l'intérieur, il commence par faire un foyer, il l'enfume même pour essayer de la faire sortir, il rentre, là il se retrouve face donc à l'ours, il la flèche donc probablement avec son arc ou son propulseur, et l'ours règle le compte du chasseur, c'est à peu près ça ?
C'est à peu près ça. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas de figure, on a un registre documentaire qui est relativement précis et qui nous permet de reconstituer exactement ce que vous avez parfaitement décrit. Et il nous reste une toute petite marge de progression ou de latitude pour reconstituer le récit. Et là, c'est là où le préhistorien, évidemment, quand il est dans une position un petit peu académique et universitaire, il hésite à franchir le pas du roman et de l'histoire, avec un petit H. Et on n'a pas exactement tous les détails. Le scénario final nous est inconnu, mais on a suffisamment d'éléments de cette histoire pour en reconstituer la trame générale, et ensuite, de manière raisonnable, broder autour pour proposer quelque chose d'un petit peu plus acceptable et lisible par un grand public.
En tout cas, c'est l'homme qui a vu l'ours, ça c'est sûr. Ouais. Un archéologue en avait fait d'ailleurs la première erreur de l'humanité, c'est assez drôle. C'est probablement pas la première, mais en tout cas, ça en est une belle.
Non, c'est certainement pas la première. Disons que c'est un cas emblématique de l'archéologie, cette histoire de l'ours et du chasseur de la grotte de Bichon. Il y a eu certainement avant lui, bien entendu, d'autres erreurs. La chronique est parsemée de ces restes humains, notamment néandertaliens. Il y a finalement assez peu d'hommes modernes. Des restes de néandertaliens qui ont été piégés par des grands prédateurs, des hyènes, des loups, des canidés, voire des ours, et dont on a retrouvé les restes en partie dévorés par ces grands prédateurs. Donc s'ils ont été dévorés, c'est qu'ils ont aussi fait des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, qu'ils ont été pris au piège et qu'ils ont été anéantis par ces super prédateurs. Non, la grotte du Bichon n'est pas la première erreur de l'humanité.
François Borde, votre prédécesseur d'ailleurs à l'université de Bordeaux, ne s'y trompait pas puisqu'il aurait dit « la pointe moustérienne, c'est ce que je mets au bout de mon bâton quand je vais chasser l'ours ».
François Borde était quelqu'un d'extrêmement pragmatique. En fait, la question lui est venue, on lui demandait quelle était la différence entre un racloir moustérien pointu et une pointe moustérienne, et il a répondu la pointe moustérienne sert à tuer, sert à armer une lance, une sagaie. Alors d'ailleurs, c'est un débat qui revient sous l'actualité, puisqu'on étudie de plus en plus ces pointes moustériennes pour essayer de démontrer que Néandertal était dans la capacité d'armer des pointes de lance, et on a quelques éléments pour étayer cette hypothèse maintenant, un petit peu plus que du temps de François Borde.
Néandertal, nous l'avons récemment vu sous toutes ses coutures, dans une vaste entreprise de réhabilitation. Ce que les archéologues n'ont pas dit, c'est que c'est eux qui avaient construit cette histoire, cette image assurément fausse de l'homme de Néandertal.
Certainement. Mais à culpa pour l'ensemble de la discipline et des collègues qui nous ont précédés. Oui, bien entendu, mais ça c'est normal. C'est l'évolution des concepts, l'évolution des méthodes, l'évolution des techniques et puis aussi la manière de les étudier, de les interpréter, de les analyser. C'est un phénomène balancier. Le balancier avec Néandertal va et vient. Actuellement, nous sommes vraiment dans une dynamique de réhabilitation quasi totale de Néandertal. Il n'y avait pas de raison de cantonner Néandertal dans un rôle subalterne de l'hominisation. L'histoire est assez complexe. C'est parce que Néandertal est notre plus proche voisin chronologiquement. Il se confond avec le territoire européen. Donc, il interpelle énormément. Et donc, on a beaucoup travaillé sur Néandertal. On a aussi beaucoup... On s'est beaucoup trompé. Et actuellement, on est dans une phase de réhabilitation assez importante sur les capacités cognitives, symboliques de Néandertal.
Pensez-vous que nous faisons aujourd'hui mieux que nos prédécesseurs Néandertal, bon sauvage, rousseauiste, en harmonie avec la nature ?
Ah ben là, c'est pas une question à préhistorien, c'est plutôt une question de philosophie. Ben, la réponse est hélas non. Hein. Je crois que l'actualité nous apprend tous les jours que nous sommes dans une dynamique assez suicidaire. Nous ne sommes plus, et depuis très longtemps, je sais pas s'il faut dire hélas, mais c'est l'évolution. Nous ne sommes plus des prédateurs, chasseurs, cueilleurs, collecteurs qui tranquillement, de manière naturelle, prennent leur proie sur un environnement sans le transformer, sans transformer cette nature. Depuis très longtemps, la nature est transformée. Et cette transformation, elle remonte au premier temps du néolithique. C'est avec le néolithique que tout a commencé. Puisque là, on modifie son environnement avec la production et tout ce qui est en corollaire.
En tout cas, si Néandertal est en harmonie avec la nature, c'est visiblement un grand carnassier. J'ai encore lu un article sur le sujet. C'est récurrent d'ailleurs, ce genre de papier sur Néandertal.
Oui, Néandertal traîne une image de viandard invétéré. On le voit assez souvent confronté au monde animal des grands herbivores, principalement en Europe le bison, secondairement les chevaux, les cervidés, les capridés, etc. Et effectivement, Néandertal a un régime alimentaire très carné, mais quelques études récentes en Europe, au Proche et au Moyen-Orient ont tendance un petit peu à nuancer cette image. Il y a maintenant des analyses isotopiques qui permettent de reconstituer le régime alimentaire hors vestiges matériels par des analyses des dosages isotopiques. Et on apprend assez régulièrement que Néandertal a consommé autre chose que de la viande, des végétaux, des nénuphars et autres végétations locales.
En tout cas, visiblement, il n'était pas très vegan. Dans cette grande vague, on a récemment vu Néandertal aussi artiste. Il s'agit là, bien sûr, d'un enjeu, à vos yeux, une partie de l'art des cavernes, l'art rupestre, est-il produit donc par Néandertal ?
Oui, c'est un débat qui est très très à la mode. Néandertal a investi le monde souterrain. Je suis bien placé pour le pour le démontrer, en tout cas pour le discuter. Après, l'appropriation de ce monde souterrain ne veut pas dire qu'il a franchi toutes les étapes d'une appropriation totale, et notamment esthétique, graphique, artistique, symbolique. Il y a effectivement des traces de couleurs dans certaines grottes espagnoles. Ces traces ont été datées. D'après nos collègues physiciens, les datations sont valables, donc il n'y a pas de raison de douter de ces témoignages, on va dire, de matières colorantes qui sont sur des parois, sur des massifs stalagmitiques. Par contre, on remarquera, on notera qu'il n'y a pas de représentation du monde. Néandertal, sauf erreur de ma part, ne représente pas le monde. Il s'approprie le monde souterrain, il y a des marques de couleurs sur les parois, il y a quelques taches de couleur, quelques ponctuations, quelques bâtonnets, mais il ne dessine pas le monde. Ça, c'est une étape qui interviendra bien plus tard. Et c'est pas une histoire de Néandertal ou d'homme moderne, parce que en même temps, les hommes modernes en Afrique australe, en Afrique du Sud ou au Proche-Orient, ne représentent pas plus le monde que Néandertal en Europe. Donc c'est bien une histoire d'évolution générale des différentes espèces de l'humanité.
Ça représente quoi, ces dessins de Néandertaliens dans cette grotte espagnole ?
Il y a principalement des taches de couleur, des ponctuations, il y a des motifs en gris qu'on appelle des réticulés en forme de... Ce sont des dessins qui sont abstraits. Encore une fois, ce sont des marques, des témoignages de matières colorantes qui sont apposées sur les parois, qui ont probablement un sens, mais qui ne représentent pas une image figurée, figurative, qu'on peut décrire avec les clés de la lecture actuelle. Donc, ce sont des dessins relativement simples et élémentaires.
On a voulu faire aussi de Néandertal un musicien au travers d'une flûte, une fameuse flûte qui avait fait absolument le tour du monde. Bien regardé, la flûte n'est pas une flûte.
Oui, vous faites mention à une découverte dans une grotte de Slovénie qui s'appelle Divje Babe. Et les collègues slovènes et autres collaborateurs avaient publié cet instrument comme un des premiers instruments de musique, une flûte. Et puis il y a une contre-étude, c'était le temps du doute avec Paola Villa et Francesco De Rico, mes collègues de l'Université de Bordeaux, qui ont démonté cette hypothèse en démontrant que les trous de la flûte n'étaient d'autres que des morsures de carnivores et autres impacts naturels. Et puis très récemment, il y a moins d'un mois et demi, il y a une autre publication qui revient, et là le balancier repart vers la flûte slovène, et on a à nouveau une étude qui démontre cette fois-ci, avec de nouveaux arguments, que l'hypothèse de la flûte n'était pas à balayer d'un revers de manche. Bon, j'avoue que je suis pas complètement convaincu par cette ultime étude.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jacques Jobert, comment passer sous silence votre grande découverte tout au fond d'une grotte, Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne?
Ben Bruniquel, c'est bon, c'est pas ma découverte. Hein. Bruniquel, c'est la découverte des spéléologues de Caussade et donc les collègues, voilà Michel Soulier. Je partage cette découverte entre guillemets avec Sophie Verheyden et Dominique Gentil. Et alors Bruniquel, c'est fabuleux parce que c'est la première appropriation humaine du monde souterrain. Le monde souterrain est un monde obscur, est un monde difficile, peuplé d'êtres dangereux parfois, les animaux bien sûr, les ours et autres grands carnivores. Donc s'affranchir de cette obscurité, de ces ténèbres pour aller les explorer n'est pas un acte naturel en soi. Les humanités ne vont pas naturellement dans les grottes. Donc il s'agit d'une démarche qui est raisonnée, qui est volontaire. Et qui a dû s'adjoindre de procédés techniques comme l'éclairage. L'éclairage, encore une fois, le feu est connu depuis très longtemps, bien avant Bruniquel. Mais pour aller au tréfonds de Bruniquel, il faut un éclairage portatif, des lampes portables ou des torches. Et là, on ne connaît pas, dans les sites de cet âge-là, de témoignages archéologiques de cette nature. Donc Bruniquel, indirectement, nous indique que l'homme était capable, dès 175-180 000 ans, de s'affranchir de l'obscurité.
Ce serait une des plus vieilles constructions de l'humanité?
Oui, en plus, il y a ces fameux aménagements assez complexes. Il y a plusieurs centaines de morceaux de stalagmites, principalement des stalagmites, qui ont été sectionnés, débités, tronçonnés et même débités en morceaux presque standards en termes de mensuration. Et ces éléments forment des constructions. On a décrit 6 ou 7 structures, des structures annulaires, des structures d'accumulation. Et alors après, tout l'enjeu de Bruniquel est de savoir quelle est la fonction de ces fameuses structures. Mais effectivement, les conditions de conservation du monde souterrain, du milieu souterrain, sont extrêmement favorables. Et le site était comme figé dans le temps, il était recouvert d'un voile de calcite. Et donc, par rapport à des sites de plein air, on a là des constructions qui sont magnifiquement conservées.
Quand les archéologues ne savent pas, ils évoquent le rituel. Jacques Jobert, Bruniquel est-elle une cabane rituelle ?
Parfois, ils ont quelques arguments pour aller sur le terrain du rituel, du symbolique. Les fonctions de ces fameuses structures de Bruniquel, j'ai indiqué qu'on n'allait pas dans le milieu souterrain pour des raisons naturelles de subsistance. On a assez rapidement écarté des refuges. Des fois, il y a des périodes d'insécurité, on va se réfugier dans les grottes. Ça ne peut pas être le cas. Il n'y a pas non plus de crise climatique telle qu'on soit obligé d'aller séjourner dans une grotte à plus de 300 mètres de l'entrée. Donc si on élimine l'habitat, si on élimine les causes un petit peu naturelles, en général, la fréquentation durable et importante et à distance du monde souterrain nous mène naturellement sur des hypothèses qui sont plutôt de type qui échappent à la subsistance, qui échappent au quotidien. Et donc si ça échappe au quotidien, par défaut, en creux, l'hypothèse principale qui revient, c'est une hypothèse symbolique. Des constructions symboliques, des constructions rituelles, des constructions initiatiques. On a sollicité un collègue canadien qui est sur ce terrain d'un site d'initiation. On n'est pas encore arrivé à ce point de l'analyse, mais il y a quelques éléments qui ne sont pas complètement contradictoires.
Donc une histoire encore à raconter. Ils ont laissé quoi, hormis ces stalagmites cassées et ces quelques charbons de bois? Rien d'autre?
Ce type de site, en général, ne livre pas beaucoup de vestiges. Les sites cultuels ou les sites symboliques, et même si c'est ni cultuel ni symbolique, il y a assez peu de vestiges. Et surtout, le gisement est recouvert de ce niveau de calcite que j'évoquais. Il y a plusieurs centimètres parfois de calcite qui ont complètement nappé ces structures. Donc en fait, il ne reste affleurante que les structures et les quelques éléments de leur torche, de leur feu. Il y en a pas mal. Hein. Il y a une douzaine de points de chauffe, de structures de combustion. Et ils ont fait chauffer, ils se sont éclairés, et notamment avec de l'os, avec comme combustible l'os.
Vous me parliez de symboles, voyons Néandertal et la mort. Là, c'est un beau sujet pour voir ce qu'il peut y avoir de symbolique. Il nous faut alors parler d'un gisement, la Ferrassie, le plus important, du moins là où on aurait trouvé la plus grosse série donc de sépultures néandertaliennes en Europe.
En Europe, oui. Pas dans le monde, puisque Néandertal a investi d'autres parties du monde, le Proche et le Moyen-Orient, et même une partie de l'Asie centrale. Enfin, au Moyen-Orient plutôt qu'au Proche-Orient. Au Moyen-Orient, le Kurdistan irakien et la grotte de Shanidar qui a livré encore plus de restes humains et de sépultures que la Ferrassie.
Et peut-être des fleurs.
Enfin, oui, ça c'est une des hypothèses, chère Arlette Leroy-Gourand, mais qui a été un tout petit peu malmenée ces dernières années. Il y a une équipe internationale qui a repris les travaux à Chenidar et qui a, hélas, parce qu'on trouvait tous l'image absolument romantique.
Celle d'un bouquet de fleurs sur une
tombe.
Oui,
qui a démonté cette hypothèse d'ensevelissement, d'inhumation de Néandertaliens avec un lit de fleurs ou avec des fleurs. On va laisser Chenidar de côté. On revient à la Ferrassie, donc en Dordogne, qui a livré 7 ou 8 inhumations. Alors c'est assez difficile hein, parce que les sites européens ont été découverts et fouillés très tôt, dans des conditions un tout petit peu rapides, et même très rapides en ce qui concerne la mise à jour des vestiges. Et malheureusement, on n'a que de sommaires croquis de ces premières inhumations, une photo ou deux des sépultures principales, un schéma général de Denis Perroni qui nous montre l'ensemble. Mais malheureusement, ces conditions de découverte et de fouille trop précoces nous privent de tas d'arguments pour être absolument certains du caractère rituel, du caractère volontaire de certaines de ces constructions. La quasi-totalité d'entre nous sommes persuadés qu'il s'agit bien de sépultures, d'un site funéraire. Mais il nous manque une foule de détails qu'une fouille récente aurait pu nous livrer.
Et d'histoires à raconter. Jacques Jobert, les moments charnières de la préhistoire sont particulièrement difficiles à interpréter. C'est le cas de la transition avec justement la fin de Néandertal, ce que les archéologues appellent le Châtel péronien.
Oui, alors là, je vais peut-être pas me faire que des amis, s'il y a des collègues qui écoutent, parce que c'est un des sujets les plus difficiles. Il y a des sujets qui sont difficiles, mais qui sont finalement difficiles, mais consensuels. C'est-à-dire qu'on les trouve difficiles parce qu'on n'a pas les réponses, mais tout le monde est à peu près d'accord sur cette non-réponse. Là, la transition entre la fin des Néandertaliens et les débuts des hommes modernes en Europe est non seulement un sujet difficile, mais non consensuel. C'est-à-dire qu'on s'entre-déchire et nous ne sommes pas tous d'accord, très loin s'en faut. On est quelques-uns à Bordeaux, pas tous d'ailleurs, à ne plus ranger ce fameux Châtel péronien dans ces industries ou dans ces faciès ou cultures dites de transition. Pour nous, le Châtel péronien appartient de plein pied, à 100% techniquement, au paléolithique récent ou supérieur.
Donc l'homme moderne.
Et donc voilà, après quel est l'auteur? L'auteur, techniquement quelque chose de très évolué n'est pas forcément attribuable ou attribué automatiquement à l'homme moderne. Nous sommes quelques-uns à penser que le Châtel péronien devrait être logiquement être attribué à l'homme moderne. Le problème, c'est que les deux seuls sites qui ont livré des restes humains, Arcis-sur-Cure, enfin une des grottes d'Arcis-sur-Cure et Saint-Césaire en Charente-Maritime, ont été fouillés relativement tôt, assez correctement, mais la résolution sédimentaire entre les niveaux les plus récents de Néandertal et les niveaux les plus anciens de l'homme moderne sont tels qu'il n'y a pas suffisamment de matière pour bien les distinguer et attribuer à l'un et à l'autre ce qui leur revient. Et on a de fortes présomptions de penser que les restes humains néandertaliens qui ont été trouvés dans des niveaux châtel péroniens sont plutôt attribués à des mélanges sédimentaires entre les deux ensembles. Je ne sais pas si j'étais très clair. Mais...
En tout cas, il y aurait un nouveau site qui aurait été récemment découvert près de Nemours, Ormesson.
Alors Ormesson a un gros avantage par rapport aux deux précédents, c'est que c'est un site de plein air. Or, les sites de plein air ont des sédimentations qui sont en général un petit peu moins chahutées par les temps géologiques que les abris sous roches ou les entrées de grottes, où il y a souvent des redistributions, des mélanges de vestiges d'un niveau à l'autre. En plein air, souvent, les dépôts de sédiments fins sont suffisamment épais, dilatés pour bien séparer ces niveaux. Et c'est le cas à Ormesson. À Ormesson, il y a un niveau châtel péronien qui est bien individualisé, qui est bien séparé des niveaux du paléolithique moyen qui sont antérieurs. Et donc, on peut très clairement le distinguer de ce qui suit, de ce qui précède. Il n'y a pas de problème stratigraphique à Ormesson.
L'homme moderne, nous le voyons dans toute sa splendeur dans la grotte Chauvet, datée de 37 000 ans. Ici, les choses sont plus simples à raconter. Un monde de chevaux, d'ours, rhinocéros, de femmes et de carnivores.
Plus simple, je ne sais pas. Plus spectaculaire, sans aucun doute. C'est évidemment la grotte Chauvet-Pont d'Arc qui est tout à fait exceptionnel, spectaculaire. On connaît beaucoup de choses maintenant sur Chauvet, son âge, à part quelques derniers sceptiques anglophones, américanophones, et consensuellement admis par l'ensemble d'entre nous, on est entre 36 et 37 000. C'est ce qu'on appelle l'aurignacien, mais attention, l'aurignacien dure entre 8 et 9 000 ans. Or, Chauvet-Pont-d'Arc, c'est un aurignacien qui est déjà assez avancé dans la chronologie. C'est presque un aurignacien récent. Ce qui signifie qu'avant Chauvet, il y avait de l'aurignacien ancien et même du proto-aurignacien. Et donc, il y a 6 ou 7 000 ans d'aurignacien qui précède Chauvet. Et on ne connaît pas grand-chose des manifestations graphiques qui ont précédé cet aurignacien de Chauvet.
C'est bien sûr la naissance du volume, de la perspective, voire même du trompe-l'œil. Ce que l'on oublie, ce sont les odeurs des occupants, notamment les plantigrades morts durant leur sommeil hivernal.
Oui, vous faites allusion à l'alternance des occupations de grottes par les hommes et par les ours. Et à Chauvet, on a un cas assez exceptionnel où l'ours investit la grotte, puis les hommes, puis à nouveau les ours, puis à nouveau les hommes. Il y a comme ça une espèce de jeu entre ces deux super prédateurs d'ailleurs pour s'approprier un même lieu. Et donc forcément, les uns succèdent aux autres et vice-versa. Et en général, les super prédateurs se neutralisent. Ils n'ont pas intérêt d'ailleurs à se rencontrer, encore moins dans une grotte. Donc on peut supposer que les uns et les autres se sont évités. Alors après, là, c'est toujours le problème de la préhistoire avec son temps long et son temps court qu'on maîtrise. Les préhistoriens maîtrisent le temps long. Chauvet, c'est 36 000 ans, ça c'est le temps long. Après, on maîtrise le temps court. On a une œuvre d'art, elle était faite en quelques minutes par un artiste qui avait un fusain. Ça, c'est le temps court. Mais le temps intermédiaire, celui qui nous permet d'évaluer, d'apprécier le minutage entre le départ des ours et l'arrivée des hommes ou vice-versa, celui-là, il nous échappe un peu.
La période suivante, vous l'avez touché du doigt, Jacques Jobert, au travers d'une grotte absolument extraordinaire, la grotte de Cussac, que j'ai visitée d'ailleurs il y a bien longtemps avec Jean Rouault. Ici, les hommes sont présents, mais l'art aussi.
Oui, Cussac, c'est un exemple tout à fait unique. Unique en tout cas avec cette ampleur de coexistence entre un art figuré, graphique, des manifestations graphiques, ce qu'on appelle de l'art pariétal, un art de paroi. À Cussac, c'est principalement des gravures souvent spectaculaires et monumentales, de très grandes dimensions, et puis des restes humains qui coexistent dans le même lieu topographique. Donc ce lieu, cette grotte, a servi à la fois de sépulcre pour des hommes et de lieu pour des manifestations graphiques. Et les deux se alternent là aussi. Alors c'est une alternance topographique cette fois-ci. C'est tout à fait étonnant parce qu'on avait une image des grottes ornées, lieu d'expression graphique, première galerie pariétale de l'humanité pour les manifestations esthétiques et l'art d'une manière générale. Et d'un seul coup, la mort fait son irruption dans ce monde un petit peu paisible des représentations d'animaux qui sont d'ailleurs souvent les animaux simplement représentés. Ils sont pas souvent en conflit, il y a pas de combat d'animaux dans Cussac. On a des bisons et des mammouths, des chevaux très paisibles qui sont suspendus comme sur les parois des grottes, sans figuration de la ligne de sol, sans éléments de paysage comme souvent avec l'art pariétal. Et puis d'un seul coup, on a cette vision très très factuelle de la mort avec des restes osseux, des corps déposés dans des bauges d'ours. C'est très étonnant comme cohabitation.
Jacques Jobert, il y a bien sûr ce côté galerie funéraire, mais il y a aussi ce côté galerie d'art rupestre absolument extraordinaire, avec des chevaux grandeur nature, faits d'un seul trait. C'est une sorte d'exploit.
Oui, c'est un exploit parce que graphiquement, c'est très très difficile de représenter un mammouth, un cheval ou un bison sans lever le trait de crayon. C'est pas un crayon, c'est une gravure avec un outil de type silex. Mais en tout cas, le geste technique en lui-même a probablement autant d'importance que le résultat final. Nous sommes en train de travailler avec l'équipe de Cussac sur ces questions, avec Valérie Ferruglio, Camille Bourdier et d'autres collègues, pour essayer de comprendre la manière dont les hommes se sont appropriés les espaces à graver, comment les ont-ils choisis, les ont-ils élus, était-ce un art fait pour être vu ou pour être ressenti. On a très souvent l'impression dans Cussac que l'art était aussi fait pour être vécu. Le geste en lui-même avait une importance primordiale dans l'action des gravétiens.
Jacques Jobert, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Préhistoire au pluriel, Préhistoire de France, publié donc aux éditions Confluence. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claire Levasseur et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré aux enfants durant le Néolithique.